On se retrouve pour le deuxième épisode des Voix de Buenaventura, un port sans communauté. Je suis Pauline, chargée de projet pour l'association Agir Ensemble pour les droits humains, et je vous invite à me rejoindre à Buenaventura, où je me trouve depuis quelques jours. De Bogota, je suis allée en avion à Cali, la capitale du département Valle del Cauca, et après une escale de quelques jours, je suis partie pour Buenaventura. Le plus simple pour arriver au centre-ville et donc au port, c'est par voie terrestre. En arrivant à l'entrée de Buenaventura, le choc. Le voyage avait été agréable, le paysage était vert, les arbres remplis de fruits, les animaux en liberté, le soleil au zénith. Un vrai paysage de vacances. On a passé les 10 tunnels, comme on nous l'avait indiqué avant d'arriver au checkpoint, qui étaient tenus par des paramilitaires ou des militaires, on ne savait pas trop. Et avec mes collègues, on a compté les tunnels. Je crois que c'était surtout moi que ça détendait, j'étais la moins sereine des quatre. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'on va leur dire aux paramilitaires ou aux militaires pour qu'ils nous laissent rentrer dans le territoire? On est arrivé au checkpoint et par chance, ils n'ont pas arrêté la voiture. Le chauffeur a simplement ouvert sa fenêtre pour montrer son visage et visiblement, il était connu des contrôleurs, donc on était tranquille. À l'entrée du territoire de Buenaventura, on se trouvait dans ce qui s'apparenterait pour nous à une banlieue. Petit à petit, on s'approchait du cœur de la ville, par l'unique voie entourée de travailleurs informels qui marchaient pieds nus dans les rejets de canalisation. Pour un petit point définition, le travail informel, c'est une activité économique qui ne fait pas l'objet d'une régulation par l'État et qui génère quand même une production à petite échelle. Par exemple, c'est le cas de la vente au détail de légumes dans la rue. Et dans cette ville à descendance majoritairement afro, on était les seuls blancs. On pouvait donc difficilement ouvrir les fenêtres des voitures pour s'imprégner des odeurs parce qu'on avait le risque de se faire remarquer et c'était pas forcément à notre avantage. À Buenaventura, le climat était très humide, chaud, il faisait environ 28 degrés, il pleuvait très régulièrement et les enfants qui étaient torse nus du fait de ce climat mendiaient à même le sol à l'entrée des ruelles au bout desquelles on pouvait deviner des espèces de maisons. En réalité, c'était quatre pylônes de bois qui soutenaient quelques planches en travers. Et au-dessus de ces maisons, il y avait une toile à l'horizontale qui était censée contrer la pluie, mais c'était pas vraiment très efficace. Et je me demande encore comment ces habitations pouvaient tenir debout. On est arrivé au bureau de notre partenaire Tayel Abierto en fin de matinée. On a été très bien accueillis avec une bouteille fraîche d'eau de coco. On a appris d'un arrivant qu'on ne pourrait pas se laver les mains, ni aller aux toilettes, parce que l'accès à l'eau est contrôlé et restreint par les groupes armés dans tous les quartiers de Buenaventura. Je vous en parlerai en détail dans quelques minutes, mais en attendant, pour connaître les conditions de vie des Buenaventurines et Buenaventurins, j'ai eu la chance de discuter avec des habitantes et des habitants qui étaient ouvertes et ouverts à la parole. Je vais donc vous emmener à la rencontre d'Esther, une travailleuse sociale âgée de 29 ans, qui a vécu toute sa vie à Buenaventura. Washington, un étudiant de 23 ans, qui est né à Timbiquicauca, qui s'est déplacé vers Buenaventura en 2011 à cause du conflit armé sur son territoire d'origine. Et Gloria, directrice d'une école maternelle et primaire dans le Bajo Calima à Buenaventura. Bien sûr, il y en aura d'autres qu'on va découvrir au fur et à mesure. Je vous présenterai également Luisa Fernanda, une Buenaventurine exilée en France, à Lyon, depuis presque 15 ans, qui pour rien au monde ne retournerait dans sa ville natale, même ne serait-ce que pour quelques jours. Buenaventura, c'est le port principal de Colombie par lequel entre 80% de la richesse nationale. Mais c'est aussi, paradoxalement, l'une des villes les plus pauvres et violentes du pays. Pourquoi je commence avec une info aussi tranchée? Parce que c'est le contraste précis qui est la base, la source, la raison de toutes les informations que je vais vous communiquer dans cet épisode. En termes de sécurité, l'année 2021 a été une année sanglante à Buenaventura. Il y a eu 194 meurtres en 2021, sans compter ceux qui ne sont pas signalés car les corps sont disparus. 841 cas de disparition forcée, d'innombrables vols et agressions sexuelles. Et il est courant, par exemple, qu'une femme soit violée par un groupe d'hommes, membre d'un groupe armé, pour le simple fait d'être l'épouse d'un membre du clan adverse. Et en fait, c'est utilisé comme une arme de guerre. Il est aussi commun de voir les portes des maisons ouvertes, non pas pour que l'air circule tel que je le croyais, mais bien pour permettre aux acteurs armés de se reposer, dès qu'ils le souhaitent, sous la menace évidemment, d'une arme ou d'une éventuelle agression future. Et donc s'y opposer pour les habitants et habitantes, ce serait en fait provoquer son propre enlèvement, voire même sa propre mort. Il y a une autre pratique utilisée par les groupes armés pour répandre la terreur et torturer psychologiquement, c'est ce qu'on appelle les casas des piquets. C'est un concept cruel qui consiste à enlever une personne, la démembrer, la découper, la tuer, puis la faire disparaître en morceaux dans la mer ou dans les estuaires. C'est plutôt flippant, je vous l'accorde, et ça ressemble d'ailleurs plus à une scène de crime, de film d'horreur qu'à un fait réel. Mais le pire, c'est que cette scène macabre est souvent réalisée devant des gens, y compris des enfants, pour procurer une sorte de torture psychologique en leur faisant ressentir l'impuissance et la soumission face à la violence des groupes qui, encore une fois, montrent le contrôle qu'ils ont sur le territoire. S'ajoute à ça l'extorsion, qui maintient une tension constante dans toutes les zones commerciales de la ville. Pour vous donner un ordre d'idée, selon une étude de la Chambre de commerce de Buenaventura, 30% des établissements commerciaux consultés ont été victimes d'un délit, par exemple des vols avec ou sans violence. Et parmi ces établissements, la moitié a été victime d'extorsion par des membres de groupes armés. Autre fait marquant à Buenaventura, l'établissement des frontières invisibles. Autrement dit, c'est l'interdiction expresse de se déplacer dans certains lieux de la ville et ou à certains moments. Ces frontières conduisent à l'isolement des personnes en les soumettant à vivre dans une sorte de kidnapping dans leur propre maison ou quartier. Et psychologiquement, elles ont un impact sur les habitantes et les habitants parce qu'ils ne peuvent plus entretenir de liens sociaux avec leur famille, leurs proches, leurs voisins. Mais ça a également un impact sur les parents qui n'osent plus laisser sortir leurs enfants dans la rue de peur qu'ils atterrissent par hasard dans la rue d'un quartier adverse et que finalement ça leur soit fatal. Lina, une collègue que je rencontrais physiquement pour la première fois lors de cette mission, est travailleuse sociale à Buenaventura au sein de l'équipe de notre partenaire Taller Abierto. Elle met sa vie en danger pour son travail au quotidien, mais elle se tient d'une autre part informée de l'actualité pour pouvoir s'adapter si nécessaire et surtout elle assume sa vocation alors que sa propre famille lui rappelle régulièrement qu'elle ferait mieux de changer de travail pour des raisons sécuritaires. Mais pour l'instant, elle m'a dit que l'idée n'était même pas envisageable.
Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'être travailleuse sociale dans une organisation des droits humains, ou bien être avocate ou militante, non seulement à Buenaventura mais aussi en Colombie, veut dire automatiquement prendre des risques. Mais avec l'expérience, j'ai appris à mettre en place des bonnes pratiques pour ne pas mettre ma vie en danger. Par exemple, lorsque je vais dans les zones rurales, je ne prends pas beaucoup d'argent sur moi, ni de bijoux ou d'objets de valeur. Je n'emporte pas non plus mon téléphone, car il y a des photos, des groupes WhatsApp et des informations très sensibles. Je prends juste un téléphone spécial où je ne reçois que des appels.
En fait, quoi que fassent les gens dans les communautés, ils sont en danger permanent. Lina a même ajouté cela.
Je reconnais aussi que travailler en lien avec les enseignantes et les enseignants est très stratégique, car cela me permet, lorsque je vais dans les communautés, d'être identifiée comme une prof et non comme une travailleuse sociale. Le fait d'être liée à l'école, de faire des activités dans les écoles avec les élèves et les parents, le fait de se faire passer pour une prof est une super stratégie de protection. Car on ne m'identifie pas comme quelqu'un d'extérieur à la communauté ou à un quartier. Du coup, quand on me voit, on ne se méfie pas de moi. Les gens pensent juste « Ah, c'est la prof » et ça limite le risque. Après, il y a toujours un risque, car une fusillade peut se produire à tout moment lorsque je rentre dans ces quartiers. C'est d'ailleurs arrivé récemment. Il y a aussi le risque d'être kidnappé en entrant dans une zone rurale, qui n'existait pas vraiment avant, mais qui aujourd'hui est bien réel. Si les groupes armés m'identifient comme appartenant à une organisation, ils se disent « Ah, ils travaillent dans une organisation », ça veut dire qu'il y a de l'argent et qu'on peut la kidnapper et demander une rançon.
Merci infiniment à Lina pour ce témoignage de l'expérience professionnelle d'être travailleuse sociale à Buenaventura. C'est une expérience qui a l'air d'être à la fois passionnante et contraignante finalement. Sur le plan économique maintenant, l'une des principales sources d'inégalité, c'est la corruption. c'est-à-dire que l'argent public est utilisé pour d'autres intérêts que ceux des citoyennes et des citoyens. C'est même d'ailleurs une pratique qui est soutenue par les agents de l'État. Et Esther, notamment, en sait quelque chose et elle m'a bien informée.
Les maires ont toujours été impliqués dans les problèmes de corruption. Et l'argent destiné à l'éducation et à la santé sont toujours détournés. C'est pour ça que Buenaventura n'a pas les conditions qu'il cesse d'avoir, c'est-à-dire de bonnes écoles, de bons ressources hospitalières, de bons systèmes de santé, parce que toutes ces ressources ont été détournées. Les gens disent que si la mairie vole, tant qu'il fait quelque chose, comme par exemple construire un parc, alors c'est ok. Mais les gens acceptent que la mairie vole contre un parc. Ce n'est pas normal. C'est justement cet aspect qu'on essaye de travailler dans les écoles avec les gens, les enfants. Et l'école de formation est le pilier fondamental pour rompre avec ces mauvaises pratiques qui se sont normalisées. Et ça n'arrive pas qu'à Buenaventura, mais dans toute la Colombie. C'est culturel, c'est devenu normal que les gens qui ont le pouvoir écrasent les autres.
La corruption ne s'arrête pas à la mauvaise gestion de l'argent public, malheureusement. Comme je vous disais, Buenaventura est l'une des zones les plus humides et qui produit le plus d'eau du monde. Mais le problème, c'est que 70% de cette eau est exportée vers l'Europe. Les habitantes et les habitants ne bénéficient ni de leurs richesses naturelles, ni des bénéfices qui en découlent. Ils n'ont accès à l'eau qu'à certains horaires déterminés par les entreprises privées qui la détiennent et qui permettent aux ports d'en avoir le libre accès sans restriction. Je me suis sentie tellement mal à l'aise en arrivant à l'hôtel dans le centre-ville, au niveau du port justement. On rentrait du bureau qui se situait en banlieue de la ville et on avait attendu jusqu'à 15 heures pour recevoir l'eau. Et dans ma chambre d'hôtel, il y avait une baignoire, une douche, un lavabo. Les trois avaient un accès illimité à l'eau froide et à l'eau chaude. Alors que les locaux doivent créer leur propre réserve d'eau dans des jerrycans à l'intérieur de leur propre logement, simplement pour laver leur vaisselle, moi, de mon côté, en tant que touriste, je pouvais me faire couler un bain à toute heure de la journée. Je trouvais ça scandaleux et honteux. Et le pire, c'est quand j'ai compris la raison de cette inégalité, c'est le simple fait que la gestion de l'eau est entre les mains d'entreprises étrangères, donc qui sont européennes, chinoises, américaines, etc., qui n'ont aucun intérêt à aider la communauté de Buenaventura. Et donc, en fait, les entreprises étrangères s'approprient les biens de la communauté locale. Et Alejandro m'en a parlé.
Il y a beaucoup d'eau potable à Buenaventura, mais 50% à 70% de l'eau ne reste pas ici. L'eau est commercialisée et amenée loin par les bateaux. C'est un de nos plus grands problèmes ici. On a plusieurs compagnies d'eau potable comme Europacifico qui font passer les tuyaux par ici, dans nos communautés. Mais qu'est-ce qu'il se passe? L'eau va directement au port et ne s'arrête ni ne reste dans les communautés.
Essayons de relativiser un peu parce que les habitantes et les habitants de Buenaventura ont connu la paix et la tranquillité jusqu'à il y a 15-20 ans. C'est Esther qui m'a permis de comprendre cette évolution en m'expliquant dans quel environnement elle avait vécu son enfance.
Les types de violences qu'il y avait lieu à l'époque sont plus forts aujourd'hui. Avant, ils n'étaient pas si marqués. Par exemple, quand j'étais enfant, je jouais jusqu'à tard le soir. Je restais jusqu'à 9 heures du soir à jouer au ballon dans la rue. Il pleuvait, c'était marrant. Et les parents se sentaient calmés et tranquilles. Ils n'avaient pas peur que quelqu'un fasse du mal à leurs enfants. Et les voisins, j'étais un coup d'œil dans un enfant qui jouait dans la rue. J'ai une enfance amusante et pleine d'illusions. Mais ce n'est malheureusement plus le cas pour les enfants aujourd'hui. Quand j'ai commencé à grandir et que je suis devenue adolescente vers 2005-2006, j'ai commencé à voir arriver la violence, même si cela n'est passé pas dans mon quartier. Beaucoup de mes camarades, mes amis, des classes disaient que des personnes armées entraient dans les quartiers. Puis les groupes armés sont arrivés, se sont installés depuis, ils sont toujours là. C'est vrai qu'il y a toujours eu des groupes armés, des crimes, des personnes qui s'introduisent dans la maison, mais ce n'est pas aussi courant que maintenant. On ne peut plus jouer dans la rue comme avant. En 2007, je me souviens, j'ai particulièrement remarqué la violence parce que lorsque j'étais à l'école, j'avais des camarades de classe qui vivaient à Immaculada. Et à ce moment-là, Ah, c'était horrible. On ne pouvait plus sortir ou rentrer à l'heure qu'on voulait. On ne pouvait plus sortir dans les quartiers à partir de 6 heures du soir.
Après avoir écouté Esther, j'ai rencontré Nelly, activiste et mère de 4 enfants, une grande femme au caractère bien trempé, et elle rejoint Esther en ce que, selon elle, l'aggravation du contexte sécuritaire prive les nouvelles générations et leurs parents de tranquillité.
Maintenant à Buenaventura, la violence est plus profondément raciste. Avant, il y avait quelques années, c'était des années merveilleuses. C'était des années où l'on pouvait vraiment sortir au parc pour s'amuser, où on allait se baigner dans les rivières, où on pouvait sortir, partager des lectures, on pouvait faire des choses entre frères et sœurs, parents. On pouvait être ensemble, en famille, et aller rendre visite à un parent dans un autre quartier. Mais la vie a changé.
Cette situation décrite par Nelly est similaire à celle de Maria Karina, qui vit dans le quartier Vista Hermosa. C'est une étudiante qui a remarqué l'arrivée des fusillades qui alimentent la peur au quotidien pour les habitants et qui tranche, de même que pour Nelly et Esther, avec l'atmosphère paisible qu'elle a pu vivre dans son enfance.
Mon enfance était très différente de celle que certaines enfants vivent. Durant mon enfance, j'entendais pas parler des fusillades. Ou si j'entendais parler, c'était parce que ça ne se passait pas souvent à un endroit où les gens et les enfants n'allaient pas. Maintenant, je vois que les gens tuent là où ils veulent. Ils ne se soucient même pas de s'il y a des enfants dans leur rue. Parce que de toute façon, maintenant, beaucoup d'entre eux sont des jeunes ou des enfants. Rien n'a plus d'importance. Si tu veux tuer quelqu'un, tu le fais n'importe où. Mon enfance a été très amusante, à 20h, à 21h même. Jusqu'à minuit, on jouait les deux. Les parents jouaient avec leurs enfants. Alors que maintenant, à 6h, 7h du soir, tout le monde doit déjà être à l'intérieur de leur maison.
Ces entretiens ont été lourds en émotions, mais m'ont permis en même temps d'avoir une idée plus précise du quotidien des habitantes et des habitants. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer Washington, un étudiant de 23 ans, avec lequel j'ai particulièrement aimé discuter parce qu'il avait un fort relativisme et était très positif. Washington, il est né à Timbiquicauca. Il s'est déplacé vers Buenaventura en 2011 à cause du conflit armé sur son territoire et il a dû s'adapter à ses nouvelles habitudes de vie. Il m'a donc partagé son ressenti à ce propos.
À cette époque, il y avait 13 ans. C'était très difficile. Par exemple, je n'avais jamais eu de voiture. Quand je suis arrivé dans une zone urbaine, c'était un contexte très différent de celui dans lequel je vivais, de celui dans lequel j'étais habitué.
Ici, je ne vois pas de bateau, alors que dans la rivière, oui, il en avait.
Arriver ici, c'était comme apprendre à sentir. Comme je n'avais pas du territoire, je me sentais pointé des doigts. Le territoire, c'était quelque chose de très fort qui fait vraiment partie de nous. Ici, on part d'une manière différente de chez moi. Mais petit à petit, j'ai appris à vivre comme eux, mais ce n'était pas facile.
Un peu plus loin du centre, mais toujours dans la même commune de la ville, précisément dans le quartier Puertas del Mar de la commune 12, Janet a un quotidien plus paisible. Née dans le Chocó, dans la municipalité de Pizarro, elle a aujourd'hui 38 ans et a vécu la majeure partie de sa vie à Buenaventura. Elle y est arrivée à 11 ans pour garder des enfants, puis elle est tombée enceinte à 16 ans de son premier enfant. Et depuis, elle travaille quand elle peut et surtout, elle s'occupe de ses enfants.
Mes journées se déroulent habituellement comme ceci. Je me lève, les enfants ont repris l'école en présentiel, je fais les ménages. Si je dois aller à un atelier, je vais. Sinon, je reste à la maison. J'attends au cas où on m'appelle pour un travail et c'est tout. Parfois, on passe du temps en famille. On reste à la maison, on regarde une série avec les enfants. Ah, et parfois, je vais à l'église. On s'est réunis dans une église chrétienne évangélique. Donc je travaille là-bas avec les enfants les samedis et les dimanches. Mon frère travaille dans la construction, mon autre sœur travaille dans son restaurant, une autre est enseignante dans la vallée. Et sinon ma famille vit sur la côte. Ils vivent de la pêche, ils se coupent les bois et ils vivent de ça.
Je n'aurais évidemment pas pu terminer cet épisode sans vous présenter Gloria. C'est la directrice de l'école Villa Estela au Bajo Calima. Une femme au charisme imposant et à la joie de vivre extraordinaire. Selon elle, Buenaventura mérite une réputation digne de son nom, à savoir la bonne aventure.
Comme son nom l'indique, le nom Buenaventura veut dire la bonne aventure. Malheureusement, les intérêts stratégiques et le manque de soutien ici causent de grandes inégalités. par exemple aujourd'hui, Buenaventura, vit une crise profonde dans le sens où il n'y a pas de vrai projet, il n'y a pas de vraie proposition, il n'y a pas de sentiment ou une conscience d'être, mais un besoin d'avoir. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de téléphone portable génère de l'angoisse chez les personnes au plus profond de leur être et ça crée des problèmes.
Toutes les personnes que vous venez d'entendre vivent encore aujourd'hui à Buenaventura. Elles choisissent de se battre au quotidien pour tenter de vivre plutôt que survivre. Luisa Fernanda a pris la difficile décision de quitter son pays il y a 15 ans. Elle s'est exilée en Espagne dans un premier temps, puis en France à l'âge de 18 ans. Elle a grandi à Buenaventura dans une maison sur pilotis en périphérie du centre-ville. Et bien que la majorité de sa famille et ses amis y vivent encore, elle n'ose pas rêver d'y retourner un jour, même pour une courte durée. Luisa Fernanda a accepté de recommencer sa vie dans un autre pays, et cela lui a coûté énormément personnellement. Elle m'a décrit le contexte de son enfance, la rencontre avec son mari, sa décision de s'exiler, ainsi que son exil. Écoutez ce qu'elle m'a dit.
À la suite d'une enfance un peu compliquée, j'ai grandi en voyant beaucoup de violences, d'abus, de maltraitances physiques et psychologiques, un nombre infini de choses que je pense qu'il est important que le monde sache. Mon enfance a été très difficile parce que j'ai grandi dans un endroit très pauvre, très modeste. Je n'avais pas un bon endroit pour dormir, je n'avais pas un endroit décent pour vivre confortablement. C'est très difficile de grandir dans ces situations car lorsqu'un épisode de violence éclate, tu peux vous arriver. C'est difficile. Les murs sont en bois. Il y a de nombreux espaces où une balle peut passer. Il peut vous arriver quelque chose. Comme tout le monde le sait, l'eau est un liquide très précieux et la Colombie est un pays très riche géographiquement et malheureusement, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas tous les jours et plusieurs fois, nous avons dû attendre qu'il pleuve pour pouvoir avoir de l'eau, c'est-à-dire pour pouvoir faire les pleins d'eau, mais même pas d'eau potable. Et je me demandais souvent, s'il ne pleut pas aujourd'hui, comment allons-nous préparer la nourriture? Comment allons-nous faire le ménage? C'est très difficile. Plusieurs fois, pendant des mois, à cause de la violence, à cause des attaques explosives, des bombes, je ne sais pas, n'importe quelle attaque forte, il n'y avait pas de lumière pendant des mois, l'obscurité totale. Qu'est-ce que cela provoquait? La peur, la terreur. Parce que quand il n'y avait pas de lumière, tout était sombre. Et les criminels profitaient de l'obscurité pour faire encore plus d'atrocités. J'ai grandi dans un endroit où il a toujours été très normal de voir des gens tués. Vous savez, je ne blâme pas les gens. Je blâme le gouvernement qui est chargé de veiller à ce que nous soyons une meilleure qualité de vie, qui dépend aussi de nous. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. Donc, je ne pense pas que nous puissions continuer comme ça. Je pense que nous devons penser aux enfants qui sont l'avenir du pays, aux adolescents. Nous avons besoin de plus d'éducation, nous avons besoin de plus d'opportunités et il n'y en a pas. Donc, je pense que mon enfance a été très compliquée. Je me suis dit qu'à un moment donné, je devais trouver un moyen de m'en sortir. Eh bien, Dieu merci, j'ai pu le faire. Et ça n'a pas été facile, parce que quitter son pays n'est pas une fête. Ce n'est pas, non. Pour moi, c'était très difficile. Lorsque j'ai pris la décision de quitter mon pays, j'ai pensé que ça allait être, je ne sais pas moi, peut-être pour une période plus courte. Mais finalement, ça a duré depuis 6 ans. Je pense que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre, car à mon avis, vouloir y retourner ne serait pas la meilleure option. En prenant la décision de venir ici, grâce à Dieu, j'ai pu avoir une famille, me marier, changer d'environnement, un nouvel environnement possible, vous savez. Je peux dormir un peu. Je n'ai plus à me cacher sous un lit de peur qu'une bombe me tombe dessus ou qu'il m'arrive une autre chose. Je peux marcher dans la rue en sécurité. Je n'ai pas parfait, mais je suis plus tranquille que dans mon pays.
Ensuite, Luisa Fernanda m'a parlé de la tranquillité du port de Buenaventura, mais pas parce qu'il ne se passe rien ou qu'il est sécurisé, mais parce que la triste réalité qui y est vécue tous les jours n'est pas mise en lumière, elle n'est pas publiée dans les médias nationaux. C'est comme si tout ce qui s'y passait n'existait pas.
Les choses que vous voyez là-bas ne sont pas diffusées sur les réseaux sociaux ni aux informations. Dans les ports de Buenaventura, car Buenaventura est vraiment un port, on voit des choses horribles, qui n'apparaissait pas dans les médias nationaux comme à Bogota. Lorsqu'il s'agit de violences, de démembrements, de disparitions, de viols, cela n'apparaît pas à la télévision nationale. À la télévision nationale, on ne parle que des sites de marchandises importantes d'une valeur de plusieurs millions de pesos, beaucoup d'argent. On en parle lorsqu'on attrape ou arrête un trafiquant de drogue très recherché, ou lorsque le peuple se rébelle et décide de dire « on n'en peut plus ». Ils organisent des manifestations. Ils ont complètement fermé les plus importantes routes d'accès aux portes. En conséquence, la Colombie est paralysée. Et dans ces cas-là, le président va à Buenaventura parce qu'il dit que le pays ne peut pas s'arrêter parce que la marchandise est trop importante. C'est très normal de descendre dans la rue un matin, en allant au travail ou en allant à son université, et de trouver un corps par terre, là, mort, coupé en morceaux, un bras, une tête. C'est très normal pour les gens aujourd'hui. Cela semble triste, mais même pour moi, j'entends aux informations aujourd'hui, Amarilla a disparu, et deux ou trois jours plus tard, Amarilla apparaît découpée en morceaux, comme de la viande. J'ai dit « wow ». Amarilla a été découpée, mais si quelqu'un d'autre dehors l'entend, ah, ils sont choqués, mais c'est tout à fait ordinaire ici. Et c'est très triste, car ce n'est pas un animal qui est mort. Les gens sont devenus frivoles, ils ne se soucient pas de rien, ils ont perdu leur amour pour les prochains. Donc, oui, je vais retourner dans mon pays, parce que c'est mon pays, je viens de là-bas. J'ai mon pays, car mon pays, c'est la culture, mon pays, c'est la danse, c'est la joie. Toutes les personnes qui viennent dans mon pays sont bien accueillies, avec de la nourriture, des boissons tropicales, des danses, de la musique. Tu vas dans une maison que tu ne connais pas et ils te donnent même une chambre pour dormir. Ce sont des choses que je n'ai pas vécues ici en Europe, parce que les gens sont un peu froids. Je vous dis une chose, aujourd'hui c'est moi qui suis ici dans un pays étranger. Mais demain, les choses peuvent changer et ce sont les gens d'ici qui pourraient aller dans mon pays. Et je vous jure qu'ils ne seront pas mal reçus. Au contraire, j'ai pris la décision de me tenir à l'écart des réseaux sociaux pendant un certain temps parce que c'est dangereux. Ils voient comment je vis ici, même si évidemment je ne suis pas riche, mais ils se rendent compte que c'est l'Europe. Dans mon pays, c'est synonyme d'être riche. Et j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur qu'ils m'enlèvent ou qu'ils enlèvent un de mes enfants, car ils se disent « ils viennent de France » et la France « oh mon Dieu, c'est riche !» Ils pensent qu'ils pourraient obtenir une rançon. Ils pensent que je vis avec beaucoup d'argent, alors que c'est le contraire. Vu qu'ils pensent que j'ai beaucoup d'argent, ils peuvent s'attaquer à moi. Je ne vais pas être tranquille là-bas, alors je décide de ne pas y retourner pour le moment.
Ce que Luisa Fernanda m'a dit est la réalité malheureusement. Mais cette réalité est assez négative. Alors je lui ai demandé si elle avait un espoir pour ses proches qui sont restés là-bas à Buenaventura, tels que sa sœur, ses cousines, ses cousins, des copains, des copines. Si elle avait un message pour leur souhaiter un meilleur avenir.
Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu plus d'opportunités. Parce qu'il a beaucoup de talents en termes de musique, des acteurs, mais il ne leur donne pas l'opportunité. Ils ne les informent pas, peut-être à cause de leur couleur de peau, de la façon dont ils parlent, de leur type de cheveux. Récemment, ils ont assassiné un garçon qui était chanteur et qui était un porte-parole très important pour les pacifiques colombiens. Ils lui ont ôté la vie parce qu'il a dit la vérité et qu'il a aidé les jeunes. Il a inspiré les jeunes à aller de l'avant. Il était notre leader, c'est lui qui nous a encouragés. Et nous a encouragés à voir que tout n'est pas que sang, que Buenaventura n'est pas que violence. Simplement, comme nous avons grandi dans cet environnement où il n'y a pas d'opportunité, c'est ce dont les gens parlent, mais ce n'est pas vraiment comme ça. J'ai vécu à Buenaventura jusqu'à mes 18 ans. Je pourrais le dire en dépit de tout ce qui s'est passé, mais si les choses changeaient de manière à ce que je puisse dormir et vivre un peu, je retournerai y vivre. Pourquoi? Parce que c'est un très beau port. Parce que les gens sont très modestes travailleurs. Parce que les gens s'élèvent pour aller chercher leur pain quotidien sans avoir besoin de voler ou de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous savez, nous ne sommes pas tous de mauvaises personnes. Nous ne sommes pas tous comme ça.
Bien sûr, tout le monde n'est pas pareil et c'est important de rappeler que tous les habitants et toutes les habitantes de Buenaventura ne sont pas des personnes violentes. Et donc, j'ai demandé à Luisa Fernanda si une personne impliquée dans ces conflits, pour des besoins financiers plus qu'autre chose, pourrait avoir quelque chose de beau en elle.
Je pense que chaque personne a un don. Chaque personne a quelque chose qui la rend meilleure. Meilleur que d'être un tueur. Meilleur que d'être un kidnappeur. Meilleur que toutes ces choses négatives. Tout n'est pas négatif. Qu'on puisse dire, plus jamais ça. Ne nous détestons pas. Vous savez, que nous vivions plus dans la peur. Mais si nous nous unissions tous, sans peur et sans crainte, s'il n'y avait pas tant de corruption, oui, je pourrais y retourner.
Merci beaucoup, Luisa Fernanda, d'avoir accepté de retourner dans votre passé, de partager avec nous votre nostalgie. Merci également à Esther, Washington, Gloria, Lina, Alejandro, Nelly, Maria Karina et Janet. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Ne manquez pas le prochain épisode avec les voix de Buenaventura. N'oubliez pas de suivre Agir Ensemble sur tous les réseaux sociaux afin d'être informé de toutes nos actions. Nous apprécions grandement le soutien de toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cet épisode. Les Voix de Buenaventura est un podcast réalisé et produit par toute l'équipe d'Agir Ensemble, avec le soutien de l'Agence française de développement, Terre des Hommes France, Suisse et Allemagne, la ville et la métropole de Lyon, ainsi que la Fondation Pro Femmes et le réseau France-Colombie Solidarité.